un élu local, puisque on l'a servi tout à l'heure, mais en lisant mon CV, avant vous êtes élu conseiller municipal, vous avez été conseiller municipal à 22 ans, oui, effectivement, ça me remet dans un monde assez ancien maintenant, puisque en fait je suis élu local depuis 71. J'ai été élu, et je reste élu municipal dans trois communes successivement. J'ai été maire de deux communes différentes successivement, et je suis conseiller général et président du conseil général de Haute-Saône. J'ai été conseiller régional depuis 20 ans. Et puis, à l'Assemblée des départements de France, donc, je préside une commission qui s'appelle infrastructure, enfin aménagement du territoire, infrastructure, transport et TIC. En fait, on a regroupé dans la même commission toutes les questions d'infra, de transport et disons aujourd'hui de technologie de communication, parce qu'en fait, de plus en plus d'ailleurs, les choses sont liées. Mais, à ce titre, peut-être que vous m'avez sollicité pour ce séminaire IEDAT. Bon, normalement, je devrais animer, mais c'est peut-être bien avec vous l'année prochaine, à l'ESO, une session. Je ne sais pas si c'est avec vous.
Non, c'est avec Laurent Davzy.
Ah non, c'est avec Davzy, oui, d'accord. Donc, à Vesoul, en Haute-Saône.
Aussi.
Ouais. En décembre, je crois, l'année prochaine, c'est ça. Hein,
oui, alors je sais pas si décembre, c'est la meilleure saison pour aller à Vesoul, mais...
Je peux rien vous promettre. Voilà. Donc, j'ai préparé quelque chose, j'espère ne pas être trop en décalé par rapport à vos attentes. C'est, disons, une discussion sur la mobilité aujourd'hui et demain. Hein. Les questions de mobilité. Bon, on a une prise de conscience des enjeux du développement durable, puis aussi on a un contexte économique qui est quand même particulier et que vous connaissez. Contexte, disons, très conjoncturel, mais aussi un contexte global sur le plan économique qui a quand même beaucoup changé. Et en face de ça, côté de ça, on a des usagers qui souhaitent bénéficier de moyens de transport efficaces. Hein, ils attendent un service, des moyens de transport équitables qui soient accessibles à tous, hein, et de plus en plus des moyens de transport respectueux de l'environnement. Hein, ça devient quand même quelque chose de beaucoup plus fort dans l'esprit de nos concitoyens. On a longtemps été dans une phase où universitaires, les enseignants, les élus, c'était petit à petit converti à cette question de transport respectueux de l'environnement. Mais aujourd'hui, le grand public s'est quand même largement emparé de la question et on n'est plus dans le même contexte. Pour autant, quelles que soient donc les questions posées, nos concitoyens s'opposent à une restriction de leurs déplacements. Hein, si vous dites, écoutez, c'est bien, mais... puisqu'on émet trop de CO2, on va limiter les déplacements de chacun de 30%, de 40%, puis le problème est réglé, ils vous diront immédiatement, et tous, non. Pas question de ne pas se déplacer. Ils veulent aussi que le territoire soit irrigué, hein, et ils ont le sentiment que c'est une condition de sa compétitivité. Si le territoire n'est pas irrigué, il n'est pas compétitif. Donc, malgré tout le discours sur les transports... collectif, etc., les gens continueront de vous dire dans le territoire, élargis-nous la route, fais-nous une deux fois deux voies. Ah, moi, je fais des déplacements dans mon département, je vais pratiquement tous les mois dans un territoire où je passe une journée, où je rencontre des chefs d'entreprise, des élus, des agents du département, je visite des entreprises, etc. Et le discours est absolument uniforme, il nous faut des infrastructures pour la compétitivité du territoire et son irrigation. Ils souhaitent, en fonction, des circonstances, choisir leur mode de transport. Hein. Ils n'aiment pas qu'on leur impose le mode de transport, ils veulent le choisir en fonction de leurs besoins. Et ils le font selon une approche, un peu globale. Donc, c'est une approche globale donc, que nous devons avoir, hein, intégrant l'ensemble des modes de transport, la protection de l'environnement, mode de transport, protection de l'environnement, la décongestion du trafic, alors c'est évidemment plus criant là où il y a le plus de congestion, et c'est cette approche globale qui est de nature à répondre à ces enjeux. Réduction des temps de déplacement, Les gens souhaitent réduire leur temps de déplacement. Alors en fait, ils ne réduisent pas forcément leur temps de déplacement. En réalité, ils allongent souvent le déplacement en contrepartie de la réduction du temps mis à faire un nombre de kilomètres déterminé. C'est ce qui, d'ailleurs, peut-être génère le plus de développement. Hein. Autre enjeu, la sécurité. Il y a une attente de maximum en matière de sécurité et sécurité routière, sécurité dans les transports en commun, dans les transports collectifs, c'est très attendu, et une haute qualité de service, ce qui pouvait paraître comme banal autrefois, un retard de 5-10 minutes, aujourd'hui, immédiatement, très contesté par l'ensemble des utilisateurs en disant « c'est pas possible, mon temps est tendu, j'ai un rendez-vous, etc. » et je ne peux pas admettre que chaque fois on soit en retard de 10 minutes. Donc c'est un défi, hein, donc nous essayons de notre côté, sur lequel nous essayons de nous interroger du côté des départements, et ce défi, on le situe dans l'enjeu des transports intelligents. Plus on relève des choses, et plus on a besoin que les systèmes de transport soient intelligents. Par ailleurs, évidemment, ce système de transport, ces systèmes, parce qu'en fait, c'est pas un seul système de transport intelligent, doivent s'intégrer dans une politique d'aménagement du territoire cohérente qui vise à densifier l'espace urbain, hein, et à limiter les déplacements domicile-travail. Parce qu'en fait, on regarde la totalité des déplacements, cette part des déplacements domicile-travail est quand même extrêmement conséquente, hein, et c'est elle qui est le concentrateur de congestion. Quoi. C'est quand même ça, et on le voit surtout, évidemment, dans les grandes agglomérations. Les départements là-dedans, qu'est-ce qu'ils gèrent, qu'est-ce qu'ils font? Nous sommes gestionnaires de 385 000 km de route, les départements. Si on regarde les masses, l'État aujourd'hui gère 11 500 km de route. Alors c'est des routes structurantes, elles ont des trafics, la plupart d'entre elles ont des trafics élevés, mais 11 500, 385 000 km. Hein. Vous voyez le rapport des masses. Les communes gèrent 500 000 km de route, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de routes avec très, très peu de circulation. Il y a les communes dans les agglos qui gèrent des routes avec de la circulation significative, mais sur les 500 000, il y a 400 000 km qui sont très, très peu fréquentés. Et les départements sont donc un échelon crucial dans l'aménagement du territoire. Et ils sont éminemment concernés donc, par cette dynamique et ces questions de transport. Comment doit être pensée l'évolution de la mobilité dans ce cadre, hein? Il faut se situer au temps T où nous sommes aujourd'hui. Il y a des projets de réforme des collectivités territoriales, puisqu'il y a 4 textes qui arrivent devant le Parlement, dont un 5e qui devrait parler de compétences, mais qui viendra qu'après, ce qui ne paraît pas évident à tout le monde. Vous devez facilement le comprendre. Dans un contexte financier et de relations financières, je dirais, entre l'État et les collectivités locales, mais tout particulièrement en ce qui nous concerne, entre l'État et les départements, qui est extrêmement flou, suppression de la taxe professionnelle, remplacement par d'autres cotisations, est-ce que les riches d'hier seront les riches de demain ou l'inverse? On ne le sait pas vraiment, hein, quand on regarde les choses aujourd'hui. Et est-ce que nos recettes seront des recettes dynamiques ou des recettes statiques? On ne sait pas non plus. Donc l'infrastructure, ça coûte. Les transports, c'est quelque chose qui appelle des moyens. Donc nous sommes dans des interrogations. Il y a une accélération de la réflexion du côté des collectivités sur la tarification de la voirie. Mais la tarification de la voirie dans une agglomération, il y a de la voirie d'agglomération, et il y a de la voirie départementale. Donc, à un moment donné, sont posées des questions, hein, sur les péages urbains dans les entrées d'agglomération. C'est une, aujourd'hui, question qui à la fois concerne les agglos, mais aussi nous-mêmes, puisqu'on a des routes à l'intérieur des agglos. Les lois récentes relatives à la taxation des modes de déplacement qui génèrent du CO2. On voit une montée de textes, hein, éco-redevance poids lourd, taxe carbone, il y a une montée en charge de cette taxation de tous les modes qui vont générer des émissions de CO2. Et ça joue dans les déplacements des personnes, mais ça va aussi intervenir dans les bilans de CO2 des entreprises. Donc on a globalement une approche économique qui évolue dans les questions de transport. Et puis, en conséquence, une nécessaire grenellisation de la mobilité. L'ensemble des questions de mobilité est reposé à travers cette question du grenelle. Alors, pour nous, département, il y a, disons, cette question de mobilité durable qui est posée, hein, et qui structure depuis déjà pas mal d'années nos réflexions. Hein. Les métiers de la route évoluent. Nous travaillons, moi j'ai le bonheur, disons, de présider une commission qui est évidemment un élément, disons, structurant de l'Association des départements de France, mais dont l'action est liée à une association de directeurs de services techniques qui nous produit régulièrement de la valeur, des documents, des référentiels, si vous voulez, ce qui fait que je fonctionne en tandem avec la DSTD, Association des directeurs des services techniques départementaux, qui n'est pas du tout corporatiste, qui est extrêmement constructive, et certains peut-être d'entre vous connaissent déjà cette association. Et nous essayons de réfléchir à une démarche route et mobilité intelligente. C'est-à-dire, on sort de, simplement de l'outil route tel qu'il a été pensé il y a très longtemps et mis en œuvre, pour aller vers quelque chose d'un peu plus élaboré, hein, sachant que les technologies de la communication, hein, peuvent faciliter l'offre de transport aux usagers, apporter des solutions plus écologiques à partir du moment où on s'en sert pour gérer les trafics, et apporter des solutions aussi économiques aux besoins nouveaux de mobilité. On est donc dans ce périmètre. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde au sein de l'Union, des pays de l'Union européenne, hein. Globalement, nous, on observe un accroissement global de la mobilité des personnes. En fait, les gens se déplacent de plus en plus, hein, quels que soient les pays. En fait, pour le moment, il n'y a pas, à part des moments très courts sur le plan conjoncturel, il n'y a pas d'évolution dans le sens inverse. Les gens continuent de se déplacer sans cesse davantage. Et un accroissement, disons, du développement, un développement important de l'offre et de l'usage des transports publics, qui est quand même quelque chose qui remonte en charge ces dernières années, mais... on l'a vu avec les TER, on compte un succès certain même, on le voit avec les transports en site propre en milieu urbain qui ont vraiment remonté alors qu'ils avaient disparu dans les années 50-60. Hein, il faut quand même voir qu'on reconstruit des choses qu'on avait enlevées des villes il y a une cinquantaine d'années. Hein, mais quand même, malgré cette remontée en charge, il reste toujours un accroissement du nombre de kilomètres parcourus en voiture, sauf conjoncture exceptionnelle de l'année 2008, début de l'année 2009. Mais même là, ça commence déjà à repartir. Nous disons, hein, que notre réflexion doit conduire doit se porter sur une mobilité intelligente, hein, qui facilite le développement le déplacement pour tous. On a des questions, nous, qui sont liées à nos missions. Hein. Nous avons, les départements, une mission de solidarité sociale et une mission de solidarité territoriale. On peut mettre mission au singulier ou au pluriel, parce qu'évidemment, dans la solidarité sociale, il y a plusieurs axes. Hein. Mais nos publics, entre guillemets, nos usagers, ce sont les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants protégés, les gens en difficulté d'insertion. Donc nous, dans notre approche transport, on doit intégrer que ces gens-là, ils doivent être traités de façon équitable et ils doivent avoir la possibilité de se déplacer. Hein. Ce qui, disons, est quelque chose d'important, hein, quelque chose de particulier, qui a des contraintes particulières, hein, et s'agit bien d'une mobilité pour tous, hein, et pas d'une mobilité uniquement pour ceux qui sont les acteurs très engagés de l'économie, de l'enseignement, de la formation, etc., mais mobilité élargie à l'ensemble des publics. Hein. On est aujourd'hui confronté, plutôt amené, conduit à mettre en place des solutions particulières pour les secteurs où la population est diffuse. Hein. On sait que quand la population est diffuse, l'offre transport collectif n'est pas toujours très adaptée, elle peut même être complètement contre-productive sur le plan de l'environnement. Mettre sur la route un car de 55 places dans lequel il y a deux passagers, c'est beaucoup plus polluant que d'envoyer à ces deux passagers une voiture pour les transporter, surtout si la voiture est bien choisie. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, les gens disent, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre des cars partout pour que les gens puissent se déplacer? Oui, sauf que dans un secteur à population diffuse, c'est complètement anti-Grenelle. C'est la négation même du Grenelle. Donc on s'aperçoit que sur chaque segment, à la fois en type de population et en répartition spatiale de la population, on est amené à apporter une réponse particulière hein, pour, disons, satisfaire l'ensemble des usagers. Si la loi sur le handicap a dit on va permettre l'accès au transport en commun à toutes les personnes handicapées, sauf qu'à un moment donné, quand on a discuté avec les gens dans les maisons départementales des personnes handicapées, elles se sont très vite aperçues que c'était donné un handicap pour elles-mêmes et pour les autres. C'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux faire de l'origine destination, y compris pour aller dans une école avec les autres enfants, pour un enfant handicapé, que d'avoir pour elle à se trouver une solution pour venir à un arrêt de bus adapté, où il faut mettre 4 à 5 ou 6 ou 7 minutes pour rentrer la personne dans le bus. Pendant ce temps-là, les autres attendent et s'impatientent, la personne étant elle-même parfois en danger si les manifestations ne sont pas très bien faites. Et ensuite, s'il y a une rupture de charge, recommencer, etc., jusqu'à arriver à l'établissement. L'important est-il d'être en même temps que les autres dans le transport, quelles que soient les conditions? Ben, c'est pas sûr. Par contre, l'important étant d'être en classe avec les autres, dans l'établissement scolaire avec les autres. Donc, on est amené, vous comprenez, à se poser des questions par rapport à tel type ou tel autre de public en allant au fond de chacune des situations, localisation spatiale et état physique des personnes concernées. Donc, nous considérons que cette notion de... Vous me direz hein, si je suis un peu long.
Non, vous êtes bien dans le sujet.
On est bien. J'avais peur un peu avant de commencer. Mais je dis, ce sont des questions essentielles que nous devons nous poser parce que aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, il y a une fracture, disons, spatiale qui peut apparaître, mais il y a aussi des fractures qui sont d'une autre nature, hein, qui sont ou culturelles ou sociales, qui se créent, qui se révèlent, qui s'élargissent. Et plus on met de technologies, plus on met de choses complexes, et plus on crée des fractures qui sont d'une autre nature que celles auxquelles on pense d'habitude. Donc, sur toutes ces questions, l'ADF a travaillé, hein, les élus travaillent, l'Association des départements de France est très motivée. Et ce que nous avons ressenti, c'est un vrai besoin d'abord de mutualiser entre nous ces questions et de communiquer aussi hein, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de nos partenaires, sur ces thématiques. Hein, mobilité durable, route durable, un vrai besoin de communication. On est aujourd'hui dans une phase où on est en train de réfléchir et de préparer un événement, par exemple, sur la route du rat. Hein. On a des problèmes de tolérance. Hein. Les gens veulent les infras, mais ils ne veulent pas chez eux. Donc, on a les mêmes questions que tout le monde. Et à chaque fois, nous devons essayer de trouver des réponses appropriées. On travaille aussi beaucoup avec les services de l'État hein, sur ces questions, parce que il y a un réseau scientifique et technique et il n'y a aucune raison de ne pas le solliciter. Je voudrais dire un mot sur les perspectives qu'offrent les systèmes de transport intelligent par rapport à toutes ces interrogations. Bon. En fait, sur la route, on a plusieurs questions qui se posent simultanément. Hein. On a des questions d'abord de congestion. Une des grandes questions posées aujourd'hui, c'est la congestion. Les transports intelligents, l'amplification considérable aujourd'hui de la communication autour du véhicule. Autrefois, le véhicule, c'était une cage, hein, un peu isolée du monde, une espèce de cage de Faraday, hein, qu'on mettait sur route et qui roulait. Finalement, si on se reporte assez longtemps en arrière, il n'y a même pas la radio à l'intérieur, il n'y avait rien du tout, c'était une cage isolée, et on roulait sur la route jusqu'au bout. Et puis là, on descendait, et on pouvait allumer la télé, la radio, pour savoir ce qui s'était passé. Petit à petit, cette cage, elle était moins isolée, on a commencé par y mettre la radio. Donc vous êtes dans la cage, vous appelez l'information, allô, il se passe quelque chose, peut-être vous pouvez le savoir. Et puis, à partir de là, le panel s'est considérablement élargi. On a mis un ordinateur à bord en disant, ben, comme ça, vous saurez combien vous consommez, et puis vous saurez à quelle vitesse instantanée vous roulez, et puis vous saurez la moyenne que vous avez fait. Alors, ça devient intéressant. Au début, on regarde, après, on ne regarde plus. Mais il y a un moment donné, on a dit, ah, ben, l'ordinateur, il peut communiquer avec un autre ordinateur situé à l'extérieur. Et puis, à partir de là, est arrivé le GPS. On a dit, ben, on va vous dire là où vous êtes, où vous allez, vous affichez la destination, etc. Bon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En fait, partout, on réfléchit à des fonctions beaucoup plus élaborées. Une fois qu'on a commencé, on va toujours plus loin. Hein, c'est la nature de l'homme, et c'est pour ça qu'il avance et qu'il progresse. On a dit qu'il faut renforcer la communication entre ce véhicule, celui qui est dedans, le conducteur, les passagers, enfin, tous ceux qui sont à l'intérieur, l'infrastructure elle-même est capable de communiquer avec le véhicule. L'infrastructure peut dire ce qu'elle est à un instant donné. Elle peut dire, aujourd'hui je suis gelé et j'ai du verglas. Aujourd'hui j'ai du brouillard. Attention. Aujourd'hui, mes capteurs me disent que je suis saturé. Méfiez-vous, vous allez tomber dans les bouchons, etc., etc. Attention, dans quelques instants, je vais me rétrécir. Donc il y aura des problèmes. L'infrastructure peut communiquer. Elle peut envoyer de l'information. Mais si elle peut l'envoyer au véhicule, elle peut l'envoyer aussi au gestionnaire de l'infrastructure, qui lui va regarder sur des écrans ce qui se passe et dire, oh là 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 là, j'avais 8000 véhicules tout à l'heure surcalculés sur une moyenne jour, mais là je suis en train de monter à 12000, à 13000, à 14000, et en instantané à telle heure j'en aurai 25000, et là je suis saturé, donc il faut que je prenne des décisions, etc. Donc il y a un moment donné, tout le système va communiquer. L'infrastructure, le gestionnaire, le véhicule, le conducteur, et on peut même aller plus loin, on peut imaginer, ça se fait déjà, où on peut dire, où on dira au conducteur, vous pouvez dormir mon cher ami, on vous prend en charge, le véhicule va rouler sans vous. Donc on est dans un système de transport intelligent qui est en train d'énormément évoluer. On a su le faire sur des trucs guidés, avec des lignes de métro automatisées, mais aujourd'hui, en modèle fermé, c'est-à-dire si on le met sur une piste, sur une route particulière, je dirais, que quelques dizaines de véhicules et qu'on veut les réguler et les guider, on sait le faire sans qu'il y ait de pilote à bord. Vous pouvez même dormir dans le véhicule, vous ne percuterez personne. Donc tout cela est en train d'exploser. Ce sont les transports intelligents et c'est un outil formidable pour réguler. Parce que réguler, c'est une solution qui évite les grosses dépenses. Hein? Si on veut traiter la question des transports autrement que par la seule construction d'infrastructures dont on, généralement, n'a pas les moyens de financement adaptés, il faut faire en sorte que le tube dans lequel on fait s'écouler des véhicules ait la meilleure efficacité possible. Donc c'est le meilleur flux, celui qui est avant le seuil de saturation, pendant le plus longtemps possible, qui donnera le meilleur résultat. Si vous avez tous les véhicules à la même heure et que le reste du temps il n'y a rien, votre système est bloqué. Si vous êtes allé dans le temps, votre système est régulé. Donc, tous les systèmes qui vont être pensés aujourd'hui vont chez, par l'intelligence, à gérer les flux, à les étaler, à pénaliser les moments les plus saturés au profit des moments les moins saturés. Quand on réfléchit à la taxe poids lourd, c'est typiquement les questions qu'on se pose. On dit, bon, la taxe poids lourd, on peut imaginer que ce soit une taxe. Alors, c'est une taxe, vous avez rentré sur le machin, vous payez. Bon. Vous payez, vous faites, le poids lourd fait ses 500 km à 110 à l'heure, c'est limité à 110 à l'heure ou à 100 à l'heure, vous êtes très content, pas de problème. Mais si vous lui faites payer la taxe, et que sur les 500 km, il en fait 400 dans les bouchons, quand il arrive au bout, ne l'arrêtez pas pour lui demander s'il est content, parce qu'il aura perdu tellement de temps qu'il vous balancera le truc à la figure en disant, c'est pas possible, on paye, et en plus de ça, on ne peut pas rouler. Donc il y a un moment donné, il faut qu'on puisse réguler tout ça. On peut imaginer une taxe poids lourd où la nuit, c'est presque rien. Hein, on pourrait presque donner de l'argent aux gens pour qu'ils roulent la nuit. Et sur les heures de pointe dans la vallée du Rhône, les jours de saturation, ah ben là, c'est extrêmement coûteux. Ça coûte le prix du camion tous les 100 km. Là, il n'y aura pas de camion. Non, mais bien sûr, je fais des exagérations volontaires. Mais on peut s'en servir comme ça. On peut s'en servir pour faire en sorte que quand le camion roule régulièrement, le même outil sert à diminuer les émissions de CO2. C'est-à-dire, on a un outil qui est formidable à condition de l'utiliser de façon différenciée. Vous êtes sur un truc saturé, vous allez sur un truc non saturé, sur un axe qui permet un report de trafic, alors vous avez un allègement de la charge payée. Comme on peut suivre le véhicule d'en haut, puisque maintenant on a des satellites qui vous suivent chaque fois que vous dépassez, c'est très à prendre avec précaution en ce qui concerne les libertés, mais en même temps, bon, c'est quand même aujourd'hui la réalité. Cet outil-là est un outil sur lequel tout le monde travaille aujourd'hui. Il y a plein de gens qui se posent toutes les questions des capteurs, etc. Dans les systèmes urbains, là j'ai évoqué la question des autos, dans les systèmes urbains c'est la même chose. Quand on va dans un congrès mondial de transport intelligent, vous avez tout le monde travaille sur les saturations urbaines. Vous voyez partout des gens avec de grands écrans qui expliquent comment on peut éviter les bouchons, les machins, les trucs dans les saturations urbaines, comment, à quelle heure il faut se déplacer. C'est toutes les questions qui vont être traitées par une intelligence à ce niveau. La deuxième grande question, l'arrivée des systèmes de transport intelligent, la communication, etc. La deuxième question, évidemment, elle est un peu liée d'ailleurs en termes de solutions, c'est la question de la grenellisation des questions environnementales par rapport au transport, la réduction des émissions de CO2. Là, et je dirais globalement, de la diminution de l'impact à la fois de l'infrastructure sur le milieu et des déplacements sur le milieu, sur notre environnement. Là, on est dans des choses qui relèvent d'une multitude d'interventions différentes. Et donc, on a beaucoup discuté, alors, dans un triangle, hein, un triangle dont les trois sommets sont les suivants. Bon, les collectivités, gestionnaires de voirie, autorité organisatrice de transport, parce qu'en fait on cumule ces deux missions, nous sommes un des pieds du triangle. Bon. L'État, il a un réseau scientifique et technique, qui est en train de se réorganiser, mais ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui, mais l'État a des missions. Il doit coordonner, il doit normaliser ou veiller à une cohérence globale, ce qui est à peu près la même chose. Il doit animer, il est quand même garant par rapport à nos concitoyens d'un certain nombre de principes, principes d'égal accès, etc. Enfin, il est quand même un formidable régulateur et c'est important qu'il joue un rôle. Et le troisième pied pour nous, alors on est ici dans les locaux d'une entreprise privée, c'est important de le dire, c'est le milieu des entreprises. Parce qu'en fait, on ne peut pas, dans ces questions-là, être simplement replié sur la sphère publique. Il faut que le partenaire économique privé soit un acteur. Un acteur, on conçoit la route. Quelle route on conçoit ? On va construire la route. Comment allons-nous construire la route ? Il y a tout un tas de questions qui doivent être traitées dans un esprit Grenelle, dans un esprit réduction de l'impact environnemental des infrastructures, d'abord dans leur construction. On fait des chantiers, on peut faire des chantiers différemment. Mais en même temps, le déplacement lui-même, on a des partenaires. Alors, c'est plus une entreprise des travaux publics, ça sera une entreprise de transport, mais elles sont toujours un peu cousines entre elles. Eh bien, on aura à dialoguer avec l'entreprise de transport sur la réduction de ces impacts, sur la façon de réduire les impacts du système de l'offre de transport sur l'environnement. Alors, dans ces domaines où on est, je dirais, là aussi, dans une phase où les choses évoluent beaucoup et assez vite, hein, on a décidé de signer, de co-signer une charte. En gros, c'est un engagement volontaire de l'ensemble des acteurs de mettre en œuvre un certain nombre d'orientations qui touchent à la fois à la conception, à la mise en œuvre et à l'organisation et au fonctionnement des systèmes de transport. À la fois conception et mise en œuvre de l'instru, enfin, du support du déplacement, la route, la voie ferrée, etc., et organisation du système de déplacement. C'est un partenariat relativement étroit. Que disent les entreprises là-dedans? Ben, elles s'engagent à mettre en œuvre les orientations du Grenelle de l'environnement dans l'ensemble de leurs démarches. Hein. Du côté du ministère, alors c'est le ministère de l'équipement, de l'environnement, du développement durable, de la mobilité, enfin, hein, ils changent de nom tous les 6 mois, ça devient impossible. Bon, on dit M2E2DM, c'est vachement facile à prononcer. On croirait de l'alphabet cyrillique, mais c'est un petit peu inquiétant. Voilà. Donc lui, le ministère s'engage à renforcer sa politique d'innovation routière, parce que pour évoluer, on a une question essentielle, c'est l'innovation. S'il n'y a pas de possibilité de tester les innovations, hein, sur la typologie des enduits, sur la nouvelle utilisation des matériaux, etc., alors, si on ne peut pas les tester, on ne pourra jamais les mettre en œuvre, parce qu'il y a un problème de garantie. Tant que l'État faisait tout dans ce pays, il était, lui, le support de l'innovation. Il prenait le risque lui-même. Il s'auto-assurait, en quelque sorte. On met un enduit exceptionnellement, ayant des qualités environnementales exceptionnelles, il réagit mal et il s'use en 6 mois. Tant pis, l'État payait, il s'auto-assure. Il s'auto-assure aussi sur ses fonctionnaires, sur tout un tas de trucs. Il y a besoin d'assurance, l'État. Il s'assure lui-même. Mais quand vous avez 36 000 collectivités, même plus, 40 et quelques mille, en écoutant les groupements, etc., alors, chacun ne peut pas être son propre assureur, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, l'innovation, il faut toujours la réassurer, il y a un vrai problème. Donc, l'État doit faire en sorte de s'engager là-dessus, et par sa politique et par les règles qu'il va édicter, de favoriser l'innovation, hein, prévoir des clauses écologiques dans les marchés de travaux, c'est-à-dire fixer les règles, les pratiques, etc., faire en sorte que ce soit possible, mais que ce soit aussi un peu contrôlé, qu'il ne se passe pas n'importe quoi, hein, et puis veiller toujours à une cohérence d'ensemble. Et puis, nous, au niveau de l'Association des départements de France, qu'on a été le premier niveau de collectivité signataire de cette charte, et les autres n'ont pas encore signé, c'est une charte nationale, mais qui est en train de se décliner au niveau local. Il y a plusieurs départements qui préparent leur signature. Moi, j'ai signé lundi, hein, avec la profession. Je suis le deuxième département à avoir signé officiellement et publiquement. Avant moi, il y avait l'Hérault. Et il y en aura d'autres, ça se prépare maintenant un peu partout, il y en aura d'autres qui vont signer. Nous, ce qu'on dit, on va mettre en œuvre, on soutient cette mise en œuvre de la Convention, et on va favoriser le plus possible des déclinaisons locales, c'est-à-dire en fait d'aller vers de l'expérimentation en réel. Parce que écrire sur le papier, c'est facile, mais dès qu'on revient au local, c'est plus compliqué. Hein. Donc, voilà un petit peu dans quel esprit on se situe. C'est un espace de progrès et d'innovation considérant. Et puis, je vais terminer, je vous rassure, on travaille depuis pas mal d'années sur un objet un peu nouveau que je vais évoquer devant vous. Bon, et je vais dire pourquoi. Longtemps, l'État a tout fait en ce qui concerne les infras. Il était la technostructure étatique, administrative, il était le pouvoir local. Les anciens, les ponts et chaussées devenus direction départementale de l'équipement s'occupaient des routes des départements, des routes des communes, les agents de l'État les entretenaient, les administraient. Il y a eu une très grande période où l'État était tout. Donc il n'avait aucun problème, d'homogénéité ou de cohérence. Ce n'était pas un problème. La circulaire tombait, elle descendait jusqu'à l'agent de base qui était avec sa pelle au bord de la route et tout fonctionnait dans l'ordre. On était dans un système relativement collectiviste sur ce plan, extrêmement centralisé. Bon, petit à petit, mais la décentralisation a joué un rôle d'ouragan, un ouragan de long terme qui n'a pas levé des vagues trop hautes sur la mer, mais un ouragan quand même. L'État a transféré les objets, les routes, clairement, et ensuite les services et les agents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État se trouve, lui, dans une position beaucoup plus régalienne. Je fixe les règles, c'est vous qui les mettez en œuvre. C'est pas du tout la même chose qu'un État qui avait les mains dans le cambouis tout le temps. Bon. Le problème, c'est qu'un État qui fonctionne comme ça, c'est parfait sur le plan conceptuel, sur le plan de la subsidiarité, sur le plan de la centralisation, mais n'ayant plus les mains dans le cambouis, il oublie la couleur du cambouis. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il ne se rappelle plus que de la règle. Il dit, il ne faut pas de ceci, pas cela, pas ceci, pas cela, etc. Et puis, d'autre côté, il y a un risque d'incohérence. Parce que si chaque département définit sa route, son truc, machin, alors il n'y a plus d'homogénéité. Or, le citoyen, lui, il ne change pas de république chaque fois qu'il change de département. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, on a un vrai enjeu de cohérence globale. Et puis, les entreprises ont besoin de sécurité. Si chaque fois qu'elles répondent à un appel d'offres, c'est des règles différentes entre la haute zone, le Doubs, le territoire de Belfort, pour prendre ma région, le territoire de Belfort et le Jura, en passant Bourgogne et la Côte d'Or, etc. Si chaque fois les règles changent, chaque fois les principes changent, la signalisation change, si tout change, il y a un moment donné, c'est plus possible. Et quand on est dans les transports intelligents, c'est pire, parce que l'intelligence, c'est justement de pouvoir mettre tout compatible. Bon. Et donc, ça fait un moment qu'on s'interroge et qu'on essaie de trouver un chemin pour, comment dire, travailler ensemble, et bien, et dans le sens de l'intérêt de nos concitoyens. Parce que la seule chose, mais c'est essentiel, ce qui nous rassemble, la chose qui nous rassemble, c'est de répondre aux sollicitations, aux attentes, aux espérances de nos concitoyens, d'apporter de la satisfaction. Les gens, que ce soit, vous savez, il y a un discours, c'est trop complexe. Les gens s'en foutent de la complexité. Ce qu'ils veulent, c'est que le service fonctionne bien. Si vous allez dans, ne vous demandez pas que l'avion dans lequel vous montez soit un avion simple. Demander qu'il vous amène à bon port sans qu'on tombe dans la mer et que vous soyez pas trop plié en petits bouts dans la boîte, c'est tout. Donc voilà. Et donc à partir de là, on a travaillé tous ensemble et on devrait déboucher normalement le 4 février, vous êtes au courant, je pense, on va déboucher, je pense, le 4 février, puisque la date est fixée, sur la création d'un institut, hein, un institut des routes. Parce qu'on voit en France, il y a 1 million de kilomètres de routes, des infrastructures en général, donc pas que les routes, au service de la mobilité, des mobilités. Alors on peut le mettre au singulier, au pluriel, bon, c'est pas ça l'important, on verra, dans la dernière phase, on va affiner le nom, qui regroupera l'État dans son rôle régalien, les collectivités, qui sont ceux qui mettent en œuvre, et les entreprises qui sont le support économique de l'action qui est conduite au service de nos concitoyens. Et cet institut, qu'est-ce qu'il aura ? Il devra piloter politiquement l'ensemble du système. Ça va de la formation des hommes à la réglementation, en passant par le respect de ce que j'ai dit avant, le développement des nouvelles technologies, le renforcement de l'action sur le développement durable, enfin, tout ce qu'on est en train d'écrire, je ne veux pas être trop long. Mais aujourd'hui, c'est ça, hein, les évolutions sur lesquelles nous, on a travaillé au niveau de la mobilité.